évoquer les émissions religieuses, si vous voulez, par exemple, le dimanche matin à la télévision, ouais. L'occasion pour le service public d'organiser le culte, et ben voilà, le bureau central des cultes désigne l'interlocuteur de France Télévisions, et le principe de libre organisation interne des cultes fait que France Télévisions n'a pas de regard éditorial sur les émissions. Ouais. Les émissions du dimanche matin, c'est un enjeu fort au sein des cultes, c'est-à-dire que ben, au sein des cultes, qui tient l'émission religieuse, ben voilà, tient un vecteur quand même assez important de diffusion, voilà, ce qui fait que dans des cultes très organisés comme le culte catholique, ça peut être apparaître comme étant plus régulier que dans d'autres cultes où la prise en main de cette émission religieuse, c'est une tribune, c'est quelque chose qui est très bon.
C'est le bureau central des cultes qui désigne quoi?
Alors, le régime de séparation, comme il n'y a pas de régime de reconnaissance, c'est sûr que c'est un exemple qui est très clair. C'est le texte de la loi de 86, je crois que c'est l'article 56 de la 86 sur l'audiovisuel, 54 peut-être, bah, il dit très simplement que le ministère de l'Intérieur désigne l'autorité culturelle qui peut.
Enfin, désigner les autorités.
C'est ça, nous, notre rôle, qu'on se borne à désigner, bah, je peux vous dire, ça prend du temps. Parfois.
Vous désignez parce qu'on veut propos.
Mais par exemple, quand vous prenez le culte musulman, on vous dit, voilà, sur le service public, les principaux cultes ont droit à un créneau. Bah, on discute avec France Télévisions, bah, les principaux, c'est eux. Peut-être un principal qui n'y est pas, qui pourrait dire, et moi. Enfin, toujours est-il qu'il y a des créneaux, il y a les chrétiens orientaux, il y a les protestants, il y a les musulmans, les catholiques, ils ont tous un créneau plus ou moins long en fonction de leur place historique, en fonction de ce qu'on perçoit, de leur plein de paramètres de discussion. Mais je sais que vous pourriez parler du culte musulman aussi. Qui c'est le culte musulman? Qui vous demandez ça? Ça ne vous inquiète pas? Les rapports avec l'Algérie, vous demandez ça à l'IMF, vous demandez ça à l'Union France, vous demandez ça à la mosquée du Pont. Pas ça. C'est pour ça que quand on a créé quelqu'un comme le CFCL, il est assez content, mais il est dans le deal du CFCL, donc la création du CFCL, en fait, c'est une association qui a été créée exprès dans les années 80, qui s'appelle Vivre l'Islam, qui est pour l'instant attributaire de cette désignation-là. Les voix de la communauté orthodoxe, qui est une aspiration orthodoxe, qui ne trouve pas toujours à se réaliser. En ce moment, elle ne se réalise plutôt pas depuis les événements en Ukraine. Voilà, l'interlocuteur du culte orthodoxe va être désigné avec un peu de tact. Et parfois, il y a un peu de tension. Les chrétiens orientaux, quand vous faites la réunion annuelle avec les chrétiens orientaux, il y a une diversité de costumes ecclésiastiques qui est assez impressionnante. Pour autant, voilà, il faut faire en sorte qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Donc, il y a parfois des éléments de grande diplomatie. Et pour le coup, si je cite les émissions religieuses, en ce moment, ce n'est pas un sujet compliqué. C'est ce qui est du solidaire.
Vous aussi, vous avez des
Non, alors.
Une question sur les sectes d'Elisabeth.
Alors, les sectes, précisément, c'était une mission interministérielle qui s'appelle la Libidude, hein, vous en avez entendu parler, qui s'en occupe. Alors, précisément, le Bureau central des cultes, et on y tient beaucoup hein, dans la présentation de ce qu'on fait et dans les réformes qui peuvent exister en l'air par-ci par-là, on ne s'occupe pas de la déviance des cultes. On s'occupe des cultes qui vont bien.
D'accord, mais du coup, comment vous définissez le culte, en fait? Parce que quelque part, l'église de Scientologie, par exemple, se définit comme une église.
Exactement, et nous on ne définit pas d'église. Nous, on ne définit pas d'église.
D'accord.
C'est-à-dire que le mot église existe dans la loi, parce que c'était une bâtiment. La loi de 1905 a toute une partie qui solde les comptes anciens. Mais aujourd'hui, on ne dit pas église, on dit lieu de culte. On peut dire lieu de culte, on peut dire lieu dans lequel s'exerce habituellement le culte. On peut dire édifice du culte, en fonction de ce qu'on veut viser. On est là-dessus en ce moment, pour être très clair, sur les questions de modification de la loi de 1905. L'État ne reconnaît pas la hiérarchie interne des cultes, on ne reconnaît pas le fait qu'il y ait une église. Cependant, on a constaté qu'elle existe. Nous, ce qu'on connaît, c'est les associations qui ont été créées pour exercer matériellement un culte. Cependant, on a constaté que les gens, en raison d'une croyance, se réunissent pour organiser des rites. Et ce qu'on leur dit, ce que leur dit l'État, c'est Vous êtes libre de le faire, parce que c'est la liberté religieuse qui le veut, et ce n'est pas à l'État de juger la validité de votre culte. En revanche, si vous troublez leur public, vous pouvez tomber sous le coup de la loi, et à ce moment-là, ben, si par exemple, en chaire, ou au moment de l'occasion d'exercer un culte, quelqu'un fait des appels à la haine, ben là, il y a la loi pénale qui peut trouver à s'appliquer, ou alors des mesures qu'on appelle de police administrative, consistant par exemple à fermer le culte, fermer le lieu de culte. Je pense que vous avez vu à Pantin, là, Pantin en ce moment, on en parle beaucoup. À Pantin, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Il y a le président de l'association cultuelle qui a relayé des appels problématiques qui ont conduit à, in fine, à l'acte de terrorisme. Et ben, le préfet a pris une mesure de fermeture. L'association a troublé l'ordre public, boum, on ferme. Donc, les associations, on a des associations culturelles qui organisent le culte. Bah, je ne sais pas si vous connaissez le Vajra Triomphant. Le Vajra Triomphant, c'est le Mandarin. Bah, eux, ils ont des associations, ils organisent le culte. La dérive sectaire, qui est définie comme telle, on ne dit pas c'est une secte ou c'est pas une secte, mais il y a des dérives sectaires. Les dérives sectaires, c'est la commission de crimes, de délits qui sont lésionnels pour la liberté des personnes. Alors là, ce qui est compliqué, c'est que bah, dans une association où on exerce le culte, à bien des occasions, est une aliénation volontaire de sa propre liberté. Par exemple, lorsque on fait des vœux de quelque chose, dans une congrégation ou ailleurs, on fait vœux volontairement, on aliène sa propre liberté. Lorsqu'on suit un dogme religieux, on aliène sa propre liberté. C'est par exemple, si l'Église dit le comportement matrimonial autorisé par l'Église est celui-là, ben on s'interdit d'avoir l'autre. Pour autant, on n'est pas dans une dérive sectaire. On est dans la liberté de chacun d'avoir une liberté de conscience, de religion, etc. Là où c'est problématique, c'est quand on a une organisation qui fait des pressions psychologiques, qui s'adonne à du racket, qui permet des dérives type agression sexuelle, etc. Et bien là, on rentre dans la dérive sectaire. Et la dérive sectaire, elle est traitée judiciairement parce que ben, il y a les parquets qui poursuivent ceux qui sont l'auteur de pressions, etc. Mais elle est distincte de la question de l'organisation du culte. Et là où la loi qui est actuellement en discussion va apporter de nouveaux outils, c'est vraiment des outils de régulation par l'ordre public. Et si, par exemple, on a une association qui a été connue pour des dérives sectaires dans le passé, si elle vient vers l'État pour dire « moi, je veux être une association cultuelle et je veux bénéficier d'avantages qui sont propres à cette association, bien, pouvoir y mettre des reçus fiscaux. » Concrètement, il faut le savoir, dans un régime de séparation et de non-subventionnement des cultes, lorsque vous faites un don de 100 euros à une association cultuelle, et il y en a 66% qui sont déduits des impôts. Il y a quand même une dépense fiscale qui est assez conséquente au bénéfice des associations cultuelles. Donc les gens qui revendiquent ce statut d'association cultuelle, si jamais ils enfreignent des règles d'ordre public comme celle-ci, on va dire non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas défiscaliser. Et si jamais vous commettez des actes qui sont des dérives sectaires, vous serez poursuivi par les tribunaux. C'est ça la différence. Et en fait, concrètement, comment ça se passe? Nous, quand on a des signalements, et les signalements, ils arrivent souvent des églises. Fédération d'églises ou l'église catholique. Les congrégations religieuses, elles viennent nous voir. On va dire, on est un peu inquiet, on trouve que ce groupe-là, ça se passe mal. Ben nous, on documente ce truc-là et on fait un signalement à la Miviludes. Et ensuite, eux, ils traitent judiciairement avec leurs outils, etc. Et puis, c'est plus nous qui connaissons cette affaire-là. On est souvent questionné par la Miviludes, c'est-à-dire, oui, on nous a signalé telle chose, parce que la Miviludes, elle reçoit des signalements beaucoup. Et ben nous, on peut parfois donner des éléments qui sont des réducteurs d'incertitude. Oui, on les connaît, ils sont affiliés à telle église qui est plutôt sérieuse.
Oui, mais quand même, c'est difficile de juger qui est sérieux, qui ne l'est pas. Est-ce que c'est finalement... en fait. Quelque part, vous dites d'un côté, chacun a une liberté de conscience et effectivement, fait ce qu'il veut. Ça y est, à qui il veut et à le culte ou la religion de son choix. Et puis d'un autre côté... certaines associations cultuelles ne sont pas conformes à quels critères, en fait, c'est ça. L'ordre public, si. On a bien compris, mais...
Pour la dérive sectaire, c'est la commission de ces infractions pénales.
Oui, c'est ça.
Ça se met en évidence par une enquête. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que si la Miviludes, ce qui n'est pas toujours le cas, nous questionne, nous disant, oui, on nous parle de telle association. Nous, on peut lui dire qu'ils appartiennent à telle église. Ils appartiennent à tel mouvement catholique.
Mais vous n'avez pas que des associations culturelles, justement, rattachées à des églises.
Non, bien sûr. Mais ils peuvent appartenir à des traditions, ils peuvent... L'autocéphalie est assez rare dans ce monde-là. Donc parfois, nous, quand on leur dit qu'ils sont connus et rattachés à des églises qui sont connues, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas menés d'enquête. Ça veut dire qu'on n'a pas d'antériorité connue. Voilà, alors c'est toujours un peu délicat. Et puis, sachant parfois qu'on a des soucis qui sont rares, encore une fois, qui peuvent nous être signalés, ça nous arrive d'en parler avec les églises de rattachement. Ou alors aux églises de rattachement, de venir nous trouver, nous disant, mais on nous dit qu'il y a un problème là. Voilà, on en discute, et bon, globalement. Mais en tout cas, ce qui est très clair, c'est que la dérive sectaire n'est pas du ressort du groupe central des cultes.
Je me permets d'intervenir. Moi, je suis avocat et ça m'interpelle. Je pense à l'article 6 du Code civil qui peut être finalement la clé d'une intervention éventuellement étatique, voire coercitive, à l'égard des sectes. L'article 6 du Code civil précise qu'on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. Alors, c'est sûr que lorsqu'il y a des dérives sectaires qui touchent notamment aux bonnes mœurs, alors après, toute la difficulté, c'est de savoir ce qu'on met derrière, peut-être que là, derrière cette définition-là, il y a aussi une certaine cohérence qui doit être celle des religions, c'est-à-dire le respect de ce qu'on considère être l'ordre public, c'est-à-dire la protection du citoyen, protection matérielle, protection morale. Alors c'est un peu intrusif, on peut avoir l'État peut aussi connaître une certaine fluctuation par rapport à la définition de ce qu'est la bonne mœurs. Les bonnes mœurs, bon, il y a de la jurisprudence, mais je pense que c'est peut-être aussi le critère pour les sectes qui peut être retenu.
Alors, la question, deux éléments hein, pour alimenter le débat là. Premier élément, l'article 6 du Code civil il est confronté à des grandes libertés publiques qui sont de niveau constitutionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, le critère de l'ordre public, qui est le critère de l'intervention de l'État dans absolument tous les domaines, il a des échelles de gravité. Et si on prend par exemple la liberté d'association, la liberté d'association est une liberté fondamentale, c'est la grande sortie du Conseil constitutionnel en 71, et qui est défendue par le Conseil constitutionnel, qui considère que le fait d'être en capacité de passer un contrat entre citoyens, à partir du moment où on est deux, pour un objet qui est librement déterminé, est une liberté fondamentale. Parce qu'elle permet de s'allier pour défendre ses intérêts, de conduire sa vie sans que l'État puisse s'y ingérer. Et qu'est-ce qu'on a comme texte de droit qui permette à l'État d'intervenir pour mettre fin à une association qui troublerait l'ordre public? On a d'abord la loi de 1901. La loi de 1901, elle dit qu'on peut demander la dissolution judiciaire d'une association dont l'objet est illicite. C'est-à-dire que si on écrit que l'objet est, par exemple, de faire rendre gorge à tous les couffards, c'est assez facile. Enfin, sauf qu'ils ne le mettent pas dans l'objet, concrètement. Ça, on a ce premier texte. Deuxième texte qu'on a, c'est le texte qui était historiquement le décret-loi de 36, qui aujourd'hui est codifié au Code de la sécurité intérieure, au 212-1. Qui prévoit les cas dans lesquels l'administration peut dissoudre une association. Vous avez vu récemment, on a dissous le CCIF, on a dissous Baraka City. Les cas, ils sont limitativement énumérés. Et vous parliez de la question de la dignité, des bonnes mœurs, la morale, qui peut se rapprocher à la question de la dignité humaine. Il y a eu des débats au Conseil d'État, là, au mois de décembre, très très intenses, sur la question de savoir si la dignité humaine peut-être un critère suffisant pour attenter à une liberté telle que la liberté d'association. Alors, il y a débat au sein du Conseil d'État, mais la réponse, c'est plutôt non. Au motif que, face à une liberté aussi fondamentale que la liberté d'association, le critère de la dignité est peut-être un critère qui est trop indéterminé. Quand vous en parlez à la conférence épiscopale, conférence épiscopale, les discussions qu'on avait avec eux, sans trahir le secret de nos délibérations internes d'administration et avec eux, leur souci, c'est d'avoir des éléments d'ordre public qui soient le moins subjectifs possible. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont bien conscience que ce que professe l'Église en matière de mœurs n'est pas tout à fait dans l'air du temps politique. Et le gros souci de l'Église, c'est de pouvoir continuer à exercer sa liberté, qui est de porter une voix dissonante sur l'avortement, sur le mariage des couples de même sexe, sur la fin de vie, etc. Et la grosse difficulté qu'a le législateur et qu'a, je dirais, l'administration à établir des critères pour attenter à ces libertés-là, c'est qu'on ait à la fois des critères qui soient suffisamment précis pour permettre, par exemple, quelqu'un qui en chaire appellerait à discriminer les homosexuels pour permettre de réprimer cet acte-là. Ça, si on prend par exemple les textes de la police des cultes de la loi de 1905, si on prend les textes du Code de sécurité intérieure, si on prend le Code pénal, il y a des choses pour le faire, mais qui ne rentrent pas dans le délit d'opinion sur le fait qu'il est possible dans notre République de porter une parole qui soit divergente par rapport à la loi. La loi, tout le monde doit la respecter. Pour autant, on peut vouloir la changer, fût-ce en prenant la parole au sein d'un édifice du culte. Et on en vient à des débats là, qu'on a eu, qui sont très, extrêmement compliqués, qu'on a eu beaucoup dans l'élaboration du projet de loi. Il y a un article qui est actuellement l'article 26 de la 1905 qui dit « Le fait de tenir une réunion politique dans un lieu de culte est puni de… » etc. Pas beaucoup actuellement, on espère plus après. Alors on a beaucoup tourné autour de la re-rédaction de cet article-là, c'est-à-dire que tout le monde voit bien contre quoi on veut lutter. On veut lutter contre l'instrumentalisation politique de la religion. À la fois par l'extérieur, c'est-à-dire on ne trouve pas normal que le pouvoir politique se serve de la religion pour essayer de faire l'électoralisme, et à contrario, on ne trouve pas normal que les cultes fassent autre chose que ce pourquoi ils sont là. Le culte, c'est aussi une éthique, un éthos, qui apporte qui a aussi des prescriptions en termes de comportement, qui a aussi un regard sur le monde. Et est-ce que, par exemple, on peut interdire de parler de politique dans un lieu de culte ? Donc, probablement pas. Et en tout cas, je pense que ce n'est pas souhaitable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit interdit de parler de politique dans un culte, devient interdit de parler de régime matrimonial, devient interdit de parler de conflits interétatiques, il devient interdit de parler d'immigration, il devient interdit de parler de tous les sujets, absolument tous les sujets, qui sont les sujets que les cultes portent dans le débat public. Donc c'est pour ça que la question de l'ordre public, elle est extrêmement compliqué à manier. Si, pour citer un autre exemple qui peut intéresser ce débat sur l'ordre public, on a créé la seule vraie mesure nouvelle concrète dans le projet de loi. Toutes les autres mesures, on travaille beaucoup, on les rend plus applicables, plus étendues, on les rend applicables en 1901, mais globalement, la transparence financière, globalement, le fait qu'il y ait des mesures de fermeture de lieux de culte ou des mesures dans la police des cultes, tout y était dans le texte de 1905. La seule vraie mesure qu'on rajoute.
Hein ? Ah bon, du tout. Ça permet des endives. Oui. Dominique Delège, moi je voulais intervenir sur deux points. Le premier, d'abord, pour vous remercier de l'exposé, vous avez bien insisté sur la genèse de la loi de 1905, qui est bien une loi de séparation. Quand on reprend les débats à l'époque, il y avait en fait deux thèses. Il y a celle défendue par Aristide Briand qui a prévalu, qui est bien la thèse de la séparation, mais il y avait celle d'Émile Combes qui était plutôt la thèse du contrôle et de la tutelle. Dans le texte qui vient d'être voté à l'Assemblée, qui va venir au Sénat prochainement, on a bien vu qu'il y avait une volonté de contrôle. Et donc ma première question, est-ce qu'on n'est pas en train de passer, sans trop le dire, d'un régime de séparation à un régime de contrôle. Deuxième question, il faut respecter les principes républicains pour toutes les religions, tout va très bien, jusque-là, liberté, égalité, fraternité, ça va bien. Simplement, vous l'avez souligné tout à l'heure, quand on rentre un peu plus dans le détail, il y a un certain nombre de textes de loi qui peuvent poser quelques problèmes aux religions et vous les avez évoqués. Mais je voudrais aller plus loin. C'est qu'au fond, l'islam radical que nous voulons tous combattre, qu'est-ce qu'il revendique, si ce n'est précisément une loi de séparation qui fait que la charia est au-dessus de la loi de la République. Donc comment on gère toutes ces contradictions?
Pour ce qui est, pardon, de votre dernière question, moi je pense que précisément la séparation n'est pas la hiérarchisation. La séparation, c'est la séparation. C'est-à-dire la séparation de l'ordre du religieux, de l'ordre du politique, de l'ordre de la connaissance et de l'ordre de la croyance. Ça veut dire que la loi terrestre n'est pas en opposition avec la logique. La terrestre, on la respecte.
Parce que c'est la loi. Mais pour l'islam radical, la charia est au-dessus, par définition. Et il y a une confusion totale entre la charia et la loi terrestre et la loi de l'institution civile. D'ailleurs, on peut le constater dans toutes les républiques qui se réclament de l'islam.
Donc, ils ne sont pas pour la séparation, justement.
Mais c'est bien ce que je vous dis. C'est que, quelque part, il y a une contradiction. Nous, nous voulons la séparation, mais eux, de toute façon, ça leur est complètement égal la loi de la République, puisque, par définition, la loi de la charia s'impose dans la République.
La tentation, au cours de l'histoire, a été celle de beaucoup de traditions religieuses en la matière.
Et pardon, non, vous ne répondez pas à ma question.
Si, moi je réponds à votre question, c'est assez clair. C'est-à-dire que le fait que dans une république, une démocratie, il y ait des gens qui soient pour la théocratie, relève de leur liberté. Ce qu'on leur demande, c'est simplement de respecter les lois. C'est pas plus que ça, en fait. On a j'ai des interlocuteurs au bureau central des cultes. Dans les cultes chrétiens, ils n'ont pas un rapport avec la séparation qui est aussi net que Aristide Briand. Enfin, y compris des chiffres pratiques.
Est-ce que vous croyez vraiment qu'on a besoin d'un texte supplémentaire? Moi, j'ai l'article 35 sous les yeux. Il est parfait, l'article 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou actes légaux d'autorité publique, etc., etc., le ministre du culte, qui s'en sera rendu coupable, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans sans préjudice. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus?
Alors, ce texte, moi, cet article, pour moi, il est mystérieux, parce que dans le projet d'Émile Combes, il faut voir que la commission des 33, qui a été créée 2 ans avant la loi de séparation, elle a étudié plusieurs textes, et notamment elle a étudié la proposition d'Émile Combes, qui à l'époque était président du Conseil. Cet article, il y figure. La plupart des articles de la police des cultes, eux, ils sont issus des codes pénaux anciens, issus des articles organiques qui ont été pris dans le cadre du concordat. Dans le projet d'Émile Combes, il n'y a pas la virgule après. Alors, excusez, parce que je n'ai plus exactement en tête. Il n'y a pas la virgule avant, lorsqu'ils sont suivis de sédition, etc. Ça veut dire que dans le texte de la loi 1905 que vous me citez, il y a une condition de réalisation. Ça veut dire que ce qu'on appelle en droit pénal une condition de réalisation. Ça veut dire qu'il y a punition à la condition qu'il y ait eu guerre civile et sédition. Ça veut dire que concrètement, vous avez dans un lieu de culte un ministre du culte qui appelle à résister au commandement des administrations, des autorités publiques. S'il n'y a pas guerre civile, il n'y a pas condamnation. Voilà. Deuxièmement, c'est une peine de, vous l'avez cité, 1 an et je ne sais plus combien. Voilà. Si vous allez à l'article 24 de la loi de 1881, qui punit, sans condition de réalisation, la provocation à la haine, etc., etc., c'est 2 ans et quelques. Donc ça veut dire que la plupart des infractions qui sont prévues par ce texte-là, qui prévoit une condition de réalisation, elles sont couvertes par la loi de 1881 sur l'article 24, qui prévoit des peines plus fortes. Pour autant, la question, c'est quelle est l'applicabilité réelle de cet article-là? Admettons qu'on ait une sédition ou guerre civile qui soit issue d'un prêche dans une église, dans un temple, dans une synagogue, dans une mosquée. Le problème de la précision du principe de précision de la loi pénale, c'est que ce n'est pas certain du tout aujourd'hui qu'un juge pénal soit en capacité de faire appliquer ce texte-là. parce que appel à résister aux commandements des autorités publiques.
C'est pas ce qu'il a écrit, monsieur. Je suis désolé, c'est pas du tout ça. Provocation directe à résister. On parle pas de sédition ni de guerre civile.
Lisez l'article jusqu'à la fin.
Ben, je l'ai lu jusqu'à la fin.
Non. Vous avez dit etc.
Où la provocation?
Voilà, continuez.
Mais où la provocation? Mais la première partie dit bien contient une provocation directe. Mais et après, où la provocation?
C'est quand même pas moi qui vais le dire.
Bon, on va pas faire un débat de juriste là, mais non. Je trouve que...
Désolé, ce texte, je le connais un peu. On y a un an avec le Conseil d'État, les juristes, les spécialistes. Je veux dire, quand même, la condition de réalisation, elle est très claire. Il y a une virgule avant, lorsque. Il y a une apposition, il y a une mise en apposition, et ensuite la condition de réalisation. C'est l'article 35 de la 1905.
Je l'ai sous les yeux.
Actuel du projet de loi.
Je l'ai sous les yeux.
Lisez-le jusqu'au bout.
Ouais, lisez-le.
Mais je veux dire que tel qu'il est rédigé aujourd'hui, qu'on l'améliore dans sa rédaction pour le préciser, oui. Mais je veux dire, tout y est. Tout y est.
Alors, tout...
Je confirme qu'il y a bien la condition de réalisation. Non, hein. Dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Oui, d'accord, mais je veux dire, tout y est.
Il n'y a pas la virgule, il n'y a pas la condition de réalisation, c'est ça le mystère. Toujours est-il qu'il y a la virgule, je suis allé voir dans le texte. Ouais. Je me suis dit quand même, c'est un peu étonnant que dans le projet d'Émile Combes, il n'y a pas la virgule, qu'il y ait la virgule dans le projet voté, sachant qu'en 1905, ce texte n'a pas été débattu. C'est-à-dire qu'en 1905, les articles de la PCDQ sont passés tout seuls. Cette virgule, elle rend obligatoire la condition de réalisation. Et donc, on a un texte qui n'est pas vraiment applicable. Si vous n'avez pas de sédition, alors, s'il tente à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre des cultes qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 ans, de 3 mois à 2 ans, virgule, sans préjudice des peines de
prison,
virgule, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
C'est sans préjudice. Bon. Mais...
Il y a une virgule après, c'est une mise en apposition. Bon, en tout cas, ce texte-là, il prévoit des peines qui sont inférieures.
On est d'accord là-dessus.
Inférieures à ce qui existe par ailleurs dans l'ordre juridique et par ailleurs applicable.
On est d'accord là-dessus.
La condition de réalisation qui rend sa réalisation extrêmement hypothétique, il faut se placer aussi à l'époque. À l'époque, on est dans l'idée de la séparation. On est dans l'idée que ça va mal se passer avec les églises. C'est ça aussi. Hein, c'est-à-dire que ce qui était visé, c'est clairement, on voit bien, le ministre du culte en chair, qui dit pas respecter ce qui s'est passé d'ailleurs. Et de fait, ce texte n'a pas d'application. Et puis par ailleurs, ce n'est pas très classique qu'on entende en chair un appel explicite à refuser d'obéir aux commandements des autorités publiques.
J'avais une question, Clément. Merci pour tous ces éléments. Est-ce que tu pourrais revenir rapidement sur le projet de loi en cours de discussion? Ouais. Peut-être le présenter très rapidement, alors que tu as commencé à le faire, et montrer en quoi ou pas, il est historique ou pas.
Augustin, pardon,
ouais.
Question de, il y avait Florence qui levait la main depuis tout à l'heure.
Ah, pardon.
Depuis 30 ans. Je me suis momifié.
Depuis 30 ans et 30 jours, est-ce que ta question attend ou tu veux la poser tout de suite, Florence?
Entre autres, j'en ai 5. Hein.
Bon, bah.
Mais la première est effectivement relative. Déjà, merci pour tout ce que vous avez partagé. Effectivement, sur le projet de loi sur le renforcement des principes de la République, donc je suis parlementaire, ne serait-ce que sur le titre, je n'étais pas forcément très à l'aise parce que quand je décortiquais les mots en disant qu'est-ce que ça veut dire que renforcer les principes de la République, parce que pour moi, on était sur des valeurs, et le préambule, ou l'exposé des motifs, je l'ai lu et relu et souligné, etc. Et je trouvais que c'était vraiment... dans la façon dont je l'ai perçu, puis après j'ai travaillé sur le texte, plutôt sur les parties éducatives, je suis à la commission des affaires culturelles, donc sur les sujets sur lesquels ma commission a travaillé, mais je trouvais effectivement que par rapport aux principes fondamentaux, peut-être que ça réaffirmait des choses, mais pour moi c'était plus une façon, et de toute façon on voit bien la finalité, l'objectif du texte par rapport à l'islamisme radical, donc là-dessus pas de problème. Mais néanmoins, tel que le titre était énoncé et un certain nombre de choses étaient posées, je rejoins un peu ce que disait mon collègue sénateur, c'est que je me dis qu'il y a sans doute, et sans être experte ni avocat, c'est qu'il y avait sans doute des textes existants sur lesquels on aurait pu s'appuyer. Mais la question que je voulais vous poser une fois que j'ai dit ça, c'est par rapport au PJL tel qu'il est sorti des conseils des ministres et suite à son premier examen à l'Assemblée, quelles sont selon vous les principales avancées qui sont intéressantes du point de vue du bureau central des cultes. Donc ça, c'était ma première question. Je vous pose mes questions subsidiaires sur lesquelles vous pourrez revenir après si vous le souhaitez. Vous avez évoqué rapidement la fin de vie. Le 8 avril, le Sénat a eu à examiner un texte sur la fin de vie, c'était la semaine dernière, qui a été rejeté. On va en examiner un à l'Assemblée le 8 avril. On voit que sur ce sujet, que ce soit le président de la République, que ce soit le Premier ministre, que ce soit une partie de l'exécutif, il y a une sorte de malaise avec, y compris des responsables de partis politiques qui invoquent une énième consultation citoyenne, voire le président de l'Assemblée nationale qui botte en touche en indiquant qu'il serait nécessaire de représenter les instances spirituelles de notre pays, alors même que des journaux comme La Croix confirment que plus de 90% de la population serait prête
à... Comme ça, si tu en as 5 comme ça, Florence...
Pardon. En fait, je suis en train de devenir vraiment une parlementaire. Donc, en gros, la question, loi sur la fin de vie...
Une bonne nouvelle.
Quelle est votre position sur le sujet? Voilà, ça c'est ma deuxième question. Du coup, je vous en pose. Oui, alors typiquement des sujets sur les problématiques de la pédocriminalité dans l'Église ou ailleurs, comment vous pouvez interagir. Vous avez parlé de l'aumônerie, donc moi j'ai bien connu l'aumônerie et j'ai un peu, j'ai pas forcément suivi le sujet, mais quid d'aumônerie qui soit différents types d'aumônerie indépendamment du culte catholique. Voilà, c'était mes questions. Je me suis arrêtée à 4, du coup. Xavier, tu m'as freiné dans mon élan. Pardon.
Merci, Florence. Ça va de revenir après. Mais peut-être, effectivement, représenter le cadre de la loi, l'évolution, hein. Et puis ça permettra de répondre à la question de Florence ensuite.
Bon, sur l'aumônerie, ouais. J'ai mon avis personnel, comme tout le monde, mais il ne compte pas. Et en fait, on n'a pas d'avis. Je veux dire, le Bureau central des cultes n'a pas d'avis à avoir sur les dogmes que professe... les différentes traditions religieuses.
C'était pas ma question, mais c'est pas grave.
J'ai compris que c'était ça. C'était le...
Non, ma question par rapport aux aumôneries, c'est de savoir si aujourd'hui, dans un établissement public, d'ailleurs, l'aumônerie doit se faire à l'extérieur de l'établissement, mais elle a quand même des entrées dans l'établissement d'une certaine façon. Est-ce que ça se fait aussi facilement pour toutes les formes de culte?
Je pense que j'aurais peut-être dû définir ce qu'on appelle aumônerie, au sens juridique du terme. Non. C'est-à-dire que je pense que vous faites beaucoup référence aux aumôneries dans l'enseignement. Ouais. En fait, l'aumônerie, c'est un peu polysémique. Et c'est un terme qui est arrivé en 1905 parce qu'il fallait prévoir la présence des cultes au sein des administrations. Les aumôneries ne sont pas en fait, seulement des lieux dans lesquels on peut rencontrer un ministre du culte ou quelqu'un qui professe un culte. L'aumônerie, c'est aussi une organisation. Et en fait, les aumôneries, un peu, les endroits où il y a réellement une interpénétration, c'est l'hospitalière, la pénitentiaire et les armées. Et en fait, mon propos tout à l'heure était de parler de ces organisations qu'on appelle aumôneries et qui font qu'on a inséré dans les établissements hospitaliers des aumôniers qui sont agréés par l'administration pénitentiaire, qui sont payés par l'administration pénitentiaire et qui peuvent aller voir les détenus qui le demandent. Lorsqu'on parle de l'enseignement, le dispositif d'aumônerie est beaucoup plus léger parce qu'en fait, c'est un dispositif qui permet aux culte d'être présent. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de co-organisation avec l'administration de la coexistence parce qu'il y a moins d'enjeux d'enfermement, moins d'enjeux de sécurité. Si on prend par exemple l'aumônerie militaire, les aumônistes ont un statut militaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des implications très fortes de ce métier. Le métier des armes, c'est un métier où on risque sa vie, on est confronté à la mort, on est soumis au secret, à un secret professionnel très fort. qui est soumis à une éthique très importante, donc ils sont des militaires. Au sein des établissements pénitentiaires, il y a des questions de sécurité qui sont très importantes et qui font que les aumôneries sont très interpénétrées avec l'établissement. Ce qui n'est pas le cas des aumôneries dans l'enseignement, où c'est simplement la possibilité d'une présence. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de co-organisation. Et en fait, quand on regarde la base juridique des aumôneries, l'article 2 de la loi de 1905, ils expliquent bien, en fait, il y a une entrée qui est budgétaire. C'est-à-dire, c'est une exception au principe de non-subventionnement. Et en fait, l'aumônerie telle que vous l'évoquez, c'est comme les autres, en fait. C'est les autres aumôneries qui sont beaucoup plus interpénétrées. C'est la manifestation de la liberté de conscience et de culte. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mis par l'administration dans une situation de ne pas pouvoir avoir un soutien spirituel doit pouvoir avoir accès à ce soutien spirituel. Et donc, considérant que dans un établissement d'enseignement, il y a une dimension géographique d'enfermement, même s'il est très léger, les établissements doivent prévoir la possibilité d'avoir accès à un soutien spirituel. C'est comme ça que sont fondées les aumôneries. Ce que je peux vous dire, j'espère avoir répondu à votre question, ce que je peux vous dire sur le projet de loi, le sujet n'est pas très simple, parce que vous avez vu, c'est un projet de loi qui aujourd'hui fait 80 quelques articles, vous l'aurez sur votre bureau prochainement, puisqu'il passe en commission cette semaine et donc au Sénat dans une dizaine de jours. Il y a beaucoup de choses dans ce texte. Il est divisé en plusieurs titres, deux titres principaux, le titre 1 et le titre 2. Le titre 1 se propose de traiter dans tous les champs de la vie sociale un sujet qui a été appelé politiquement un sujet séparatiste par le président de la République. Et ensuite, il décline dans les services publics, dans les associations, dans l'enseignement, etc. Et le titre 2 se propose, lui, de traiter spécifiquement de la question du régime des cultes et propose des solutions qui permettent de diminuer le risque que des associations qui sont support de l'exercice d'un culte conduisent à des dérives qui pourraient être de type séparatiste avec toute la question de la définition sur laquelle je ne reviens pas de ce concept-là. Pour notre part, on a beaucoup été impliqués forcément dans l'article 1er, parce que l'article 1er, c'est un article laïcité. On a beaucoup été impliqués dans l'article 6, parce que l'article 6, on n'était pas tout seul pour le coup. C'est un article liberté d'association. Mais quand on dit qu'est-ce que dans un contrat d'engagement républicain, je pense que c'est le débat que vous avez au Sénat, qu'est-ce que dans un contrat d'engagement républicain il peut être mis, qu'est-ce que l'État est fondé à demander à une association qui le subventionne, la question va se poser très rapidement pour la CIMAD. Vous prenez les statuts de la CIMAD, le préambule des statuts, c'est on est affilié aux églises protestantes. Vous prenez l'exemple de l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte, ils font des formations au second. L'Ordre de Malte, c'est un Ordre de Malte. Et donc, ce qui veut dire que par définition, on ne peut pas être logiquement fondé à. L'État ne peut pas imposer à toute la vie sociale ce qui s'impose à lui-même, c'est-à-dire le principe de laïcité. Donc, quels sont les principes qu'on est susceptible d'imposer qui peuvent en être inspirés à la vie sociale subventionnée ? Une subvention, c'est, nous dit le texte de la loi des CRA de 2000, c'est ce que donnent les administrations publiques pour des activités d'intérêt général. Donc, pour une activité d'intérêt général librement organisée par une association, qu'est-ce que l'administration est fondée à imposer ? Et bien, probablement des choses autour de la liberté de conscience, autour du respect de l'égale dignité des personnes, autour de la non-discrimination, etc. Donc c'est autour de ça qu'il faut essayer de bâtir un corpus de choses que l'administration qui finance et les collectivités publiques qui financent peuvent être amenées à imposer à une association. Et enfin, on a été évidemment très impliqués sur la question du titre 2. Peut-être que c'est sur le titre 2 que vous êtes un peu plus intéressé sur le regard qu'on peut porter technique sur les choix qui ont été faits. Comme je le disais, la loi de 1905, c'est une loi qui n'a jamais été appliquée dans son épure. Dans son épure, elle prévoyait le fait des associations cultuelles. Les associations cultuelles, elles ont des obligations de fonctionnement démocratique. Elles ont des obligations de transparence financière qui sont prévues à l'article 21 de la loi de 1905. Dès 1905. Elles peuvent être dissoutes par le préfet si jamais les associations qui exercent le culte ne respectent pas ces obligations-là. En fait, ça n'a jamais été appliqué. Parce que dès janvier 1907, on a dit non, mais n'importe quelle association cultuelle peut organiser le culte. Ce qui fait qu'on a eu, depuis lors, la permanence de deux régimes. Un régime très, très régulé, qui est le régime de 1905. Vous devez tenir des comptes. Vous êtes obligé, dans votre fonctionnement, une fois par an, de tenir une assemblée générale qui contrôle les actes de gestion de l'administration. Si vous voulez les avantages qui sont propres à cette catégorie, vous devez demander l'autorisation au préfet, qui peut la refuser pour des motifs d'ordre public. Et à côté, un régime, la loi 1901, qui ne prévoit rien. C'est-à-dire que la loi de 1901, votée le 1er juillet 1901, c'est une loi qui dit, et pour reprendre ce que vous disiez sur l'article 6 du Code civil, qui dit, finalement, on peut se mettre ensemble, et notre loi, c'est la loi des partis, c'est un contrat, la loi du 1er juillet 1901, elle dit, la loi sur le contrat d'association. Et on peut prévoir ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. Et on n'a aucune contrainte. On n'est pas obligé de tenir des comptes. On n'est pas obligé d'avoir des organes de gouvernance. On peut être une association qui fonctionne de toute éternité comme elle a été déterminée par ses statuts. Ce qui n'est pas rare. Hein. Il y a des tas de cas d'associations qui se sont constituées et qui n'ont pas d'organes de gouvernance. Pas d'assemblée générale, pas de conseil d'administration, pas de bureau. Et vous pouvez aujourd'hui exercer le culte comme ça. Pas de transparence financière. Pas de contrôle démocratique. Or, le culte est une matière quand même un peu particulière. Qui nécessite que les gens qui s'assemblent pour l'organiser ils fassent les choses comme il faut, parce que de l'argent qui vient de manière occulte, ça veut dire qu'il y a des gens qui payent de manière occulte et qui décident de manière occulte. Quand il n'y a pas de démocratie associative, l'association ne sait pas vraiment à qui elle appartient. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a de nombreuses dérives dans le culte musulman en particulier qui sont liées ou qui sont favorisés par une mauvaise gestion associative. Et par exemple, il y a eu beaucoup de débats, vous avez sans doute entendu parler, sur un alinéa nouveau introduit par le projet de loi, l'article 26 du projet de loi et l'article 19 de la loi 1905, clause dite anti-putsch. Et cette clause anti-putsch, elle dit que tout nouveau membre de l'association doit être validé par un organe délibérant prévu par les statuts. En fait, ce truc-là n'a pas été inventé, ce truc-là datait avant mon arrivée déjà, et pas été inventé par les fonctionnaires de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques. Les protestants fonctionnent comme ça, les catholiques fonctionnent comme ça, les orthodoxes fonctionnent comme ça, les juifs fonctionnent comme ça. Il y a un système de cooptation. Pourquoi il y a un système de cooptation? C'est un système de protection de l'association. On l'a vu, c'est des cas qui ont été concrets. Un groupe radical veut prendre le contrôle d'une association. Prendre le contrôle de l'association, c'est prendre le contrôle de ses finances, c'est prendre le contrôle de son ministre du culte, c'est prendre le contrôle de son lieu de culte, c'est prendre le contrôle de sa notoriété. Et ils viennent tous, ils règlent tous leur adhésion, ils sont tous votants à conseil d'administration, ils renversent la gouvernance et l'État. Ça fait partie des mesures qui sont proposées dans ce projet de loi, c'est-à-dire de renforcer la gouvernance. La transparence financière. En 1905, les associations, à l'article 21, doivent tenir des comptes. Et ces comptes sont sous contrôle, à l'époque, c'était écrit, des administrations d'enregistrement. Après, ça a changé, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un système où l'association 1905 est cultuelle, elles tiennent des comptes normés, qu'elles présentent à leurs associations, à leurs sociétaires. Lorsqu'elles émettent des reçus fiscaux, elles les produisent à l'administration publique qui vérifie qu'elles organisent bien le culte dans des conditions normales, etc. Qui ne va pas regarder à l'intérieur du culte, qui regarde, et ça c'est depuis 115 ans, qu'elles exercent bien. À côté, on a 1901, trou noir. On ne sait pas. Et on ne sait pas, et si on voulait savoir, on n'aurait pas le droit de demander. Le projet de loi se propose de rééquilibrer les obligations, de dire, mais finalement, ces obligations, elles sont liées au fait que le culte est une matière particulière et qu'on a besoin de certaines règles de vie associative, pas dogme, règles de vie associative. Et donc, ces règles de vie associative, on les impose quelle que soit la forme de l'exercice de ce culte-là. Et pour les 1905, on prend acte d'une réalité qui est une réalité qui date de 1942, qui ne date pas de 1905, qui est que le régime des associations culturelles, c'est aussi un régime qui a des avantages. Dès le 25 décembre 1942, la loi est du 25 décembre 1942, c'est une sorte de cadeau de Noël, les associations ont ce qu'on appelle la grande capacité, la capacité à recevoir des donations et des legs. C'est un revenu qui est assez important. Dans les diocèses, c'est souvent entre 10 et 15 % des revenus annuels. Depuis 1987, Et puis la loi mécénat, donc la loi du 23 juillet 1987, les dons sont défiscalisés au bénéfice d'associations culturelles. Et donc, la proposition de ce projet de loi, c'est de dire on a besoin de transparence dans le fonctionnement démocratique et dans le fonctionnement financier, et on a besoin de clarté lorsque les associations reçoivent des avantages que lui ont consenti le Parlement, puisque tous les avantages, dans un système de non-subventionnement, tous les avantages sont consentis par le Parlement, et il faut que, lorsqu'ils n'en respectent pas les conditions, par exemple lorsqu'ils ne respectent pas le rôle public, ils ne puissent pas bénéficier de ces avantages. C'est ça le cadre général du projet de loi sur l'exercice du culte. Et il y a une nouveauté, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, qui ne figurait pas du tout dans les textes jusqu'à présent. C'est la seule vraie nouveauté, parce qu'encore une fois, la question de la transparence financière, de l'organisation démocratique, de contrôle des autorités publiques lorsqu'il y a des avantages, ça préexistait. Ça a été renforcé, mais ça préexistait. Et la vraie nouveauté, c'est l'article 35 du projet de loi, 35 et 36, qui prévoit la transparence des financements étrangers, qui est liée au fait qu'on a constaté qu'il y a des acteurs internationaux beaucoup de moyens et qui s'intéressent pour beaucoup de mauvaises raisons au fonctionnement des cultes. Le fondement intellectuel de ça, c'est de se dire le culte, c'est le culte, c'est-à-dire que lorsqu'une association organise le culte, elle n'est pas censée faire de la politique d'un État étranger. Elle n'est pas censée être financée par quelqu'un qui a envie de peser sur la ligne. La ligne, elle est déterminée par l'association en fonction de son affiliation à des règles générales ou alors en fonction de son fonctionnement démocratique, mais c'est elle qui le choisit. Et donc, il y a ce système proposé à l'article 35 qui consiste à rendre obligatoire pour tout financement international une déclaration de l'association qui bénéficierait d'un financement international au-dessus d'un certain volume. Voilà. Et ensuite, il y a la question qu'on évoquait tout à l'heure avec M. Delège du régime de la police des cultes. Alors, il y a un régime hérité de 1905 dans des conditions que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup été débattu en 1905. C'était un peu décevant parce que moi, je me suis dit, enfin, je vais avoir la réponse à toutes mes questions et en fait, pas grand-chose, malheureusement. C'est-à-dire que les débats se sont éternisés sur les premiers articles, les articles de dévolution, puisque c'est à ce moment-là qu'on a décidé comment les églises allaient s'organiser. Et en fait, sur la police des cultes, les débats sont un peu pauvres. Et qui postule le fait que ben, un lieu de culte, c'est un lieu quand même particulier où il y a... par exemple, quand on prend la parole dans un lieu de culte, on a affaire à un rassemblement de personnes qui ont une adhésion très forte, a priori, au discours qui va être porté. On leur parle dans une position de supériorité puisqu'on est souvent soit l'incarnation de la transcendance, soit au moins son porte-parole. Enfin, en tout cas, il y a une présomption de transcendance. Donc, tout ce que présuppose cet article, ce titre 5 de la loi 1905, c'est donc lorsqu'on commet une infraction dans cette posture-là, elle est plus grave. Et ce que propose le texte de la loi, c'est en gros, qu'on fait le débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est d'essayer de faire en sorte que certains des articles qui sont aujourd'hui devenus inapplicables par l'effet du vieillissement du texte ou par l'effet du vieillissement des quantum de peine, soient restaurés. On a par exemple un article, qui est l'article numéro 29 du projet de loi, qui dit « sont publiées des peines de peine de police, les infractions aux articles précédents ». Les peines de police n'existent plus depuis 1994. Ben, par exemple, le projet de loi, il dit ben, « voilà, par peine de police, on entend une contravention de cinquième classe ». Ces articles-là, ils sont intéressants. Ils sont intéressants parce qu'ils sont beaux dans la façon dont ils sont écrits. Et c'est vrai qu'on peut regretter d'une certaine façon que l'article 35 n'ait plus d'applicabilité réelle, directe, en raison de ce qu'on évoquait tout à l'heure et peut-être de son imprécision aussi, parce qu'il est bien écrit. Mais il y a des articles sur lesquels j'attire votre attention, qui sont assez beaux à lire, c'est les 31 et 32, qui sont les articles jumeaux. C'est les articles qui portent atteinte à la liberté de conscience et un article quand on porte atteinte à la liberté de culte. Alors pour la petite histoire, ils sont punis de la même, aujourd'hui actuellement, ils sont punis de la même sanction. Ces fameux articles 29 devenus inapplicables. Mais... ils sont punis de la même sanction. Mais c'est pas article 29 pour le coup. Mais dans le projet initial, c'est là qu'on voit que Briand, dans le débat Briand-Combes, il n'était pas si libéral que ça. Il avait pris un malin plaisir dans sa première proposition à proposer une pénalisation plus forte des atteintes à la liberté de conscience que des atteintes à la liberté de culte. Après, tout ça, c'est réglé parce qu'à un moment, il a fallu un petit peu débattre de ce débat-là. Mais... Donc voilà, pour brosser un peu à grands traits ce que je peux vous dire sur le plan technique, sur la façon dont cette projet de loi a été pensé. Après, la question que vous évoquiez tout à l'heure de la façon dont elle est présentée politiquement dans l'exposé des motifs, donc, quel est le signifiant du titre, quels sont les signifiants de certains des articles qui posent des, enfin, en tout cas qui expliquent certains principes juridiques. Après, ça relève du débat politique. Voilà, c'est pas forcément moi qui suis, j'ai mon avis forcément, mais c'est pas à moi de vous le dire. C'est voilà, ça relève
du débat public. Bon ministre.
Merci. C'était très clair en tout cas pour moi.
Qu'est-ce qui gêne du coup peut-être, on va peut-être conclure qu'il est 20h55. Vous m'entendez là ?
Oui, très bien.
Oui, oui.
On ne va pas trop prolonger, mais quels sont les points qui gênent côté protestant et catholique aujourd'hui, puisque a priori, ça les affecte pas, ça ne devrait pas les affecter tant que ça. Qu'est-ce qui, dans les échanges avec vous, vous avez pu avoir, vous sentez, il y a des points qui semblent…
Alors, je n'ai pas trahi le secret de nos délibérations, ce serait leur faire une mauvaise manière. Mais il y a beaucoup de choses, j'ai cru lire qu'il y avait pas mal de choses dans la presse.
Ouais.
Bon, d'une part, on est quand on parle de ces choses-là, on peut avoir une entrée technique qui est celle que j'essaie d'avoir avec vous, une entrée politique qu'on peut analyser, etc. Mais après, je veux dire qu'ils dépendent pas de ni ma petite personne ni de l'administration dans laquelle je travaille. Y a un élément qui est politique, c'est-à-dire qu'on est aussi dans un temps de l'insertion des églises catholiques, protestantes, juives, etc., dans la République, qui fait qu'elles ont en ce moment ce type de relation avec les pouvoirs publics. C'est-à-dire quand elles prennent ces positions-là, elles ne les prennent pas vis-à-vis de l'administration, elles les prennent vis-à-vis des pouvoirs publics. Y a beaucoup de sujets de débat entre les églises et les pouvoirs publics, l'immigration, l'éthique. Tous ces sujets sont des sujets qui alimentent aussi des rapports qui sont plus ou moins des rapports de confiance. Il y a eu le confinement. On est sorti quand même d'un débat qui n'était pas évident. Et c'est pas rien que le Conseil d'État ait pris des décisions au visa de la liberté de culte. Hein, quand même. C'est pas, et enfin, il y a concrètement l'activité concrète des cultes. Et ils ne sont pas tous, les cultes, dans une situation administrative et financière qui est très favorable. Et il est clair que ce projet de loi, pour l'essentiel, l'immense majorité, ne va pas affecter 1905. Il va ajouter quelques obligations comptables et financières qui sont assez mineures pour certains, qui sont un peu plus importantes pour d'autres. Ce qu'il faut savoir, qu'en fait, toute la subtilité, la complexité, et voire le cauchemar que représente le fait de nager dans ces sujets-là, et que tous ces textes sont extrêmement enchevêtrés. C'est-à-dire qu'une association diocésaine, par exemple, est une association culturelle au sens de la loi de 1905, notamment parce que ça a été reconnu par un accord international de 1924, mais qui n'est pas pour autant dérogatoire de la loi de 1905, mais qu'elles sont par ailleurs soumises à la loi de 1901, puisque les 1905 sont des 1901, et que ces 1901 sont soumises à la loi de 87, qui dans son article 4-1 impose beaucoup de choses aux associations qui reçoivent plus de 153 000 euros de dons annuels. La tenue de comptes normés, la certification des comptes, la publication des comptes. Donc, tout, en réalité, n'est pas dans ce texte-là. Et ce qui fait que, par exemple, si on prend la question des diocésaines, elles sont des grosses associations culturelles gérées extrêmement professionnellement. Il est clair que le texte n'a pas un impact majeur sur le fonctionnement des diocésaines. Elles tiennent toutes des comptes normés, toutes certifiées, toutes déposées, etc. L'impact, elles vont devoir déclarer leur financement étranger, ça c'est vrai. Elles vont devoir déclarer leur financement étranger. C'est, par exemple, et je ne pense pas que l'Église catholique ait quoi que ce soit à cacher. Enfin, peut-être, on va découvrir peut-être quelque chose. En tout cas, ce n'est pas un a priori, à mon sens, que nous on a, et je ne pense pas que le gouvernement l'ait non plus. Pour autant, elles vont devoir déclarer leur financement étranger. Alors, ça ne leur fait pas plaisir de devoir le faire. J'imagine que c'est ça. Et ce qui est beaucoup reproché dans les textes qui ont été rendus publics, c'est ce que vous faites, vous punissez les 1905. Or, l'essentiel du texte, je pense essayer de l'avoir démontré, c'est l'extension des obligations de 1905 à 1901. Mais c'est, je pense, d'une manière générale, beaucoup plus fondamentalement, parce qu'ils l'ont écrit à plusieurs reprises, c'est le sentiment que ça démontre de la défiance. Et je pense que c'est ça.
Ouais.
Voilà, c'est une analyse qui est un peu personnelle, qui est fondée un peu sur les textes qu'ils ont écrits dans la presse, les positions publiques qu'ils ont prises. Après, nous, on a un dialogue. Les cultes sont des professionnels du dialogue avec nous. C'est-à-dire que, concrètement, nous, on passe beaucoup plus vite qu'eux, en général. En tant que personne, en tant qu'institution, évidemment. Le bureau des cultes, c'est quand même depuis 1911. Je ne me comparerai jamais à l'Église catholique. Peut-être pas 2000 ans encore, mais... si on considère que ça a commencé dans les années 30, presque 2000 ans, donc on reste très humble quand on touche à des données millénaires. En tout cas, on a, nous, un dialogue très franc, on s'appelle beaucoup, on s'en parle, il n'y a pas de... Et puis techniquement, on essaie de régler les questions, parce qu'on n'est pas... En tout cas, je ne pense pas que ce soit le rôle d'une administration de compliquer la vie des gens. Donc, on essaye notamment de travailler en ce moment, c'est dans la presse, hein, donc je ne trahis rien, mais on essaie de travailler dans les mesures d'application du texte sur le fait de simplifier la coordination entre une réglementation aujourd'hui qui est la réglementation des libéralités et la réglementation du rescrit qu'on supprime et qu'on remplace par la déclaration préalable obligatoire. Donc, tout ça est extrêmement technique. On essaie de trouver des pistes qui fassent en sorte de faciliter la vie des cultes parce que, mine de rien, leur liberté d'action est la manifestation de cette liberté des cultes qu'on est aussi d'une certaine façon chargé de promouvoir et de défendre. Je ne sais pas s'il y a des questions qui absolument vous voulez encore évoquer.
C'est bon pour moi.
Il n'y a pas de questions dans la salle non plus.
Non. Hein. Bon. Super, écoutez, on a passé un bon moment sur le sujet.
Ouais.